OK, on va commencer notre 132e leçon dans la série de théologie systématique. Nous allons voir ce matin la doctrine, les officiers de l'Église locale et particulièrement les pasteurs. Alors, comme on a mentionné dans les leçons précédentes, on sait que l'adoration comporte deux facettes, l'intérieur et l'extérieur. Donc, on a vu tous les aspects, les 22 aspects de l'adoration intérieure. Maintenant, on va regarder plusieurs doctrines qui concernent plus l'adoration publique. Alors, dans la leçon précédente, on avait vu que l'Église locale était un organisme, mais on avait mentionné également qu'elle était aussi une organisation. Donc, l'Église locale a d'abord eu des officiers extraordinaires. Le Seigneur a voulu donner ces officiers extraordinaires lors de la fondation de l'Église dans sa phase primitive. Alors, dans la phase primitive, ces officiers étaient, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Donc, les apôtres avaient reçu appel, mission et doctrine de Christ lui-même. Maintenant, on sait que l'office d'apôtre n'existe plus aujourd'hui parce que c'était un office qui avait été donné uniquement à la fondation de l'Église. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Les prophètes étaient donnés par Dieu pour l'explication de la parole et pour parler au nom de Dieu. Ils avaient aussi le pouvoir de prédire des événements futurs. Cet office n'existe plus dans le sens strict du mot. Dans le sens général du mot, les puritains utilisaient ce mot dans le sens de prêcher la parole de Dieu. Par exemple, on peut prendre le livre du puritain William Perkins, où il parle de l'art de prêcher et il utilise le mot prophesying, donc the art of prophesying, donc il utilise le mot prophétiser dans le sens de prêcher. Alors c'est sûr qu'il y a le sens strict là, des prophètes, aujourd'hui il n'y en a plus, mais dans le sens de prêcher, on peut utiliser le mot dans ce sens-là. Donc les évangélistes au sens strict étaient ceux qui avaient écrit les évangiles. Deux d'entre eux étaient des apôtres et les deux autres étaient Luc et Marc. Au sens strict, encore une fois, les évangélistes n'existe plus de nos jours. Nous l'utilisons maintenant pour parler des missionnaires ou des personnes qui ont un don particulier pour l'évangélisation. Le premier point qu'on va regarder dans notre leçon de ce matin, c'est les pasteurs, leurs titres. Alors, les Écritures utilisent plusieurs titres pour parler des pasteurs. Un des titres utilisés, c'est le titre « sous-berger ». Jérémie, chapitre 3, verset 15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Jean, chapitre 21, versets 15 et 16. « Après qu'elles eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors, le premier titre, c'est « sous-berger ». Le deuxième titre, c'est « docteur ». On sait que le docteur, c'est dans le sens « enseignant ». Éphésiens, chapitre 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Le mot grec « kai » qui traduit le mot « et » pourrait aussi se traduire par « c'est-à-dire », signifiant ainsi l'exégèse ou la signification du verset « pasteur, c'est-à-dire docteur ». Alors, c'est quand ça dit « pasteur et docteur », on aurait pu traduire aussi « pasteur, c'est-à-dire docteur ». Troisième titre utilisé par les Écritures, le titre « évêque », surveillant ou épiscope. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Il désire une œuvre excellente. Alors, dans les Écritures, évêque, pasteur, surveillant, c'est tous des titres qui sont interchangeables. C'est pas comme dans le sens catholique, un évêque, c'est quelqu'un qui est au-dessus des prêtres, et c'est lui qui détermine dans un grand rayon où ils vont placer ses prêtres. Alors, les Écritures n'autorisent pas cette façon de voir-là, parce que on peut facilement faire une étude, comparer tous les mots qui sont utilisés pour parler des pasteurs, ils sont tous interchangeables. Alors, c'est pas un titre évêque, c'est pas un titre qui fait en sorte que tu es au-dessus et que tu diriges plusieurs hommes sous toi. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alors, le mot évêque est utilisé pour pasteur. Parfois, le mot surveillant. Le mot qui est utilisé aussi, un autre mot qui est utilisé, c'est le mot ancien. Acte 20, verset 17 et verset 28. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et dans le verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Voyez-vous? Verset 27 et verset 28, on le voit, là, un exemple d'interchangeabilité. Dans le verset 17, on parle d'anciens et on parle des mêmes personnes. Et dans le verset 28, on parle d'évêques. Alors, on parle des mêmes personnes, c'est-à-dire les personnes qui étaient à Éphèse. Ils les fait venir. Dans une place, ils les appellent anciens. Dans l'autre place, ils les appellent évêques. Tite, chapitre 1, verset 5 à 7. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 et 2. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Alors, autre mot qui est utilisé, le mot « gouverneur », dans le sens de « dirigeant, conducteur, président ». 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Hébreux, chapitre 13, verset 7 et 17. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. » On a aussi le titre « serviteur ». Dans le grec, c'est « sous-rameur ». C'est comme si on serait tous des rameurs. Puis le grand rameur, c'est Christ lui-même, mais nous, on est des sous-rameurs. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Autre mot qui est utilisé, alors on voit qu'il y a beaucoup de mots utilisés pour parler de la même réalité. Le mot « dispensateur ». Dispensateur dans le sens de « économe » ou « administrateur ». 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Tite, chapitre 1, verset 7. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » Luc, chapitre 12, verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Donc, on a regardé les différents titres comme premier point. Deuxième point, on va regarder les qualifications. Alors, les Écritures nous parlent d'un bon caractère spirituel. 1, chapitre 3, verset 6. Alors, le verset nous rappelle que ça ne doit pas être des nouveaux convertis. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, un bon caractère spirituel. Et aussi, ça comprend l'habileté et l'aptitude à enseigner et à prêcher. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Romains 12, verset 6 et 7. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, cette habileté et cette aptitude se traduit ordinairement par les choses suivantes. Bonne élocution, clarté d'expression, capacité à véhiculer sa pensée, compétence, préparation soignée, compréhension et expérience des choses divines, capacité de toucher à la fois les esprits, les consciences et les volontés. Donc, on a vu que c'était... c'est quoi, donc, déjà la première? Excusez.
Un bon caractère.
Deuxième, c'est un bon caractère domestique. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Alors, John Gill, dans son livre sur la théologie systématique, interprète l'expression « mari d'une seule femme » comme signifiant qu'il ne soit pas polygame. 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 et 5. Alors, l'idée qu'il se doit de contrôler sa propre famille. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, un bon caractère domestique. Les Écritures nous parlent aussi d'un bon caractère personnel. Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Chose importante, c'est à réaliser, je l'ai vu quelque part, ça m'est arrivé depuis ma vie, début de ma vie chrétienne, que j'ai connu un chrétien. Il est rentré dans le bureau du pasteur, puis il est allé y faire une réprimande, comme de quoi ses enfants, il n'avait pas ses enfants sous son contrôle. Mais la chose qu'il faut mentionner, c'est que ses enfants étaient des adultes, sortis de sa maison. Alors, il voulait, comme lui dit, qu'il était disqualifié parce que ses enfants ne marchaient pas selon le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit que les enfants des pasteurs seraient nécessairement des personnes qui marcheraient droit et qui seraient des personnes sauvées. Alors, c'est sûr que c'est une mauvaise interprétation parce que tu peux avoir élevé tes enfants correctement et les avoir eu sous contrôle durant tout le temps qu'ils étaient sous ton toit. Mais après qu'ils deviennent des adultes, tu n'as plus le contrôle. Tu ne peux pas dire que tu es disqualifié à cause de ça. Là. Alors, c'était vraiment... Mais c'est rien que pour dire qu'on peut tout voir à la vie chrétienne. Si quelqu'un comprend mal le verset et qu'il il s'en va faire dire à un pasteur qu'il est disqualifié parce que ses enfants ne sont pas chrétiens ou qu'ils sont des pécheurs, il fait une erreur grave. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut donc qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Il faut aussi qu'il ait une bonne réputation, qu'il soit non esclave de vices, colère, convoitise, avarice, intempérance, qu'il soit vigilant quant à lui-même, quant à sa doctrine et son troupeau, et qu'il soit humble. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Le troisième point qu'on va regarder, les pasteurs, leur ordination. Le premier point, c'est les prérequis. Donc, il faut qu'il y ait eu un appel interne de Dieu. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, le premier prérequis, c'est un appel interne de Dieu. Hébreux, chapitre 5, versets 4 et 5, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jérémie, chapitre 23, verset 21, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. » Alors, l'importance de l'appel de Dieu. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'appel externe. Donc, l'appel interne, c'est sans que Dieu te parle, Dieu t'appelle. L'autre, c'est l'appel qui vient de l'Église locale elle-même. Donc, ordinairement, ce sont les membres des Églises locales qui reconnaissent le don d'enseigner et de prêcher des anciens. Ils les mettent à l'essai et à l'épreuve. Quand ils reconnaissent ce don, ils les invitent à utiliser leur don pour leur bénéfice, et ceci par vote. De quelle façon se fait ordinairement la procédure de l'ordination? Les candidats pour l'ordination doivent être membres de l'Église locale. Colossiens, chapitre 1, verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, première chose, il faut qu'il soit membre de l'Église locale. Le candidat doit être connu, avoir été testé et approuvé. Le candidat doit avoir été considéré dans la réalité de ses dons par la prédication publique et par la prière. Le candidat doit avoir été signifié de l'appel des membres de l'Église locale et il se doit d'avoir accepté l'appel. Donc, c'était un consentement et un accord mutuel. Le candidat doit avoir été publiquement accepté par les membres et par les églises locales en communion. Le candidat est mis à part pour cette église et pour eux seulement. Acte 14, verset 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, le candidat doit avoir été élu par les membres de l'Église locale par vote à main levée. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 18 et 19. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre volonté. Le mot grec traduit ici dans le texte par « avoir été choisi », c'est vraiment « kerotenotes », qui signifie littéralement, en anglais c'est « being hand stretch » en anglais, et en français « désigné à main levée ». Alors, ils ont mis le mot « choisi », mais dans le fond, c'est vraiment l'idée que c'est comme un vote à main levée. Ça peut être fait à main levée ou ça peut être fait secret, ça n'a pas d'importance. À l'époque de l'Église primitive, le choix se faisait de deux manières, par tirage au sort ou par vote à main levée. Il existe des preuves historiques de l'utilisation de ces deux méthodes. Acte 1, versets 24 à 26. « Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Certaines églises, de ceux qu'on appelle en anglais les « Old Mennonites », continuent de désigner leurs anciens par la méthode du tirage au sort. Aujourd'hui, ça ne se voit plus beaucoup, mais eux le font encore. Quatrième point qu'on va regarder, les pasteurs, leur travail. Alors, un des premiers rôles du pasteur, c'est nourrir. Qui nourrir? Ce sont les brebis du Seigneur et non ceux que les Écritures désignent comme les chiens, les pourceaux ou les boucs. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jean dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors, nourrir qui? Les brebis du Seigneur. Jean, chapitre 10, versets 15 et 29, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. Alors on voit dans le chapitre 10, il parle des brebis. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 11, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Alors, qui nourrir? Bien sûr, les brebis. Avec quoi les nourrir? Les Écritures nous disent que ça ne doit pas être avec de la paille. Donc, on sait que de la paille, c'est que une paille, c'est toute la partie nutritive a été enlevée. Il reste juste de se faire que, normalement, on ne devrait pas donner ça à nourrir des brebis avec ça. Alors, Jérémie, chapitre 23, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. « Pourquoi mêler la paille au froment ?» dit l'Éternel. Donc, la nourriture se doit d'être adaptée à la condition de la brebis. Du lait pour les nouveaux-nés et de la viande solide pour les plus mûrs. Les Écritures parlent également de saine doctrine Donc, ça veut dire qu'elle soit pure, non mélangée avec des traditions et avec des hérésies et des erreurs. L'enseignement doit être donné avec intelligence et sagesse. Jérémie, chapitre 3, verset 15. Donc, ça se doit d'être des choses divines et non de la philosophie et de la psychologie. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » Voyez-vous, actuellement, il y a un groupe à Québec, pour dire que c'est, il y a un groupe à Québec qui ont quitté les églises locales pour se joindre à l'église de la capitale, parce que, semble-t-il, que dans ces églises-là, les membres sont tannés de voir les pasteurs enseigner de la psychologie et de la philosophie. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. C'est plus la parole de Dieu qui est centrale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là du tout, mais elle n'est plus centrale. Alors, quand les brebis, normalement, se rendent compte qu'ils sont mal nourris, ceux qui sont en santé changent de place. Comment les nourrir, maintenant? Ça doit être par la parole de Dieu et la prédication. L'enseignant doit se donner pleinement son ministère et se consacrer à l'étude des Écritures sacrées. Le mot que Gil utilise, le mot « addict », doit être « addict ». Un « addict » en anglais, ça veut dire quelqu'un qui est dépendant. Alors, ça doit que l'enseignant, ça doit être comme quasiment « addict » à la parole de Dieu. Alors, il doit le faire avec assiduité, constance et un travail acharné. Il doit être aussi particulièrement honnête dans ce travail. Bien sûr que si on regarderait, si on écouterait l'ensemble de tous les prédicateurs du monde entier, puis qu'on les écouterait sermon par sermon, bien sûr qu'à l'intérieur des sermons, on pourrait peut-être trouver des choses qui sont que le gars, s'il se réécouterait, il enleverait ça. Mais il y a aussi le fait que l'honnêteté là-dedans, c'est de donner le sens du texte au moment où tu le donnes avec les connaissances que tu as. Sûr que quand tu regardes des fois les œuvres de certains chrétiens du passé, ils ont dit des choses, disons, alors que tu faisais 10 ans qu'ils étaient chrétiens ou 15 ans qu'ils prêchaient. Puis après 25 ans, ils se disent « Ah, j'ai dit telle chose il y a 15 ans, mais aujourd'hui, je ne répéterai plus cela. » Alors, je pense que tout le monde qui a déjà enseigné peut dire ça quelque part dans ses enseignements du passé. Le Seigneur va tenir compte de notre honnêteté au moment où on l'a donné, les connaissances qu'on avait. Mais si nos connaissances augmentent, c'est sûr que notre façon de voir les choses change. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire de quelqu'un, à cause qu'il a dit ça il y a 15 ans, que ça veut dire qu'il pense ça aujourd'hui. Il faut toujours que tu regardes dans le contexte, quand il l'a dit, faisait combien d'années qu'il était chrétien, etc. Alors, 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 et 18, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le point, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Alors, bien sûr, une des fonctions aussi de nourrir et aussi administrer les ordonnances. Alors, ce sont ordinairement les anciens qui administrent le repas du Seigneur et le baptême. Autre aspect du travail des pasteurs, c'est celui de soigner le troupeau. Soigner les brebis comporte de multiples facettes et tâches. Guérir les maladies spirituelles, encourager, stimuler, protéger contre les loups ravisseurs, surveiller, réconforter, prier, supporter et soulager. Donc, on est rendu au quatrième tâche principale des pasteurs, celle de prier. La prière est une des principales fonctions du pasteur. Il doit le faire avec ferveur, de façon constante, avec attention et pour tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Alors, le pasteur, normalement, il y a deux fonctions principales. Si, dans une église, on lui donne trop de toutes sortes d'autres affaires, il néglige ses fonctions principales. Ses deux fonctions principales, c'est la prière et la parole de Dieu. Ça devrait être 90% de son temps devrait être là-dedans, et même, je dirais, même 100% idéalement. Aussi, gouverner. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Alors ici, là, quand le Seigneur dit d'obéir au conducteur, bien sûr, quand le conducteur est à l'intérieur de la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il existe dans les églises un esprit d'indépendance qui est vraiment un esprit du monde. Souvent, les choses vont être dites publiquement par rapport à certains comportements qu'on essaye de faire changer. Les gens, on dirait qu'ils n'en tiennent pas compte. Il y a comme un esprit du siècle qui s'est introduit dans les églises. Ça, il faut faire très attention à ça, parce que c'est Dieu qui nous dit ça. C'est pas quelqu'un qui invente qu'on se doit d'obéir au pasteur. C'est obéissez à vos conducteurs. Il parle aux chrétiens en général, puis il dit d'obéir au pasteur. Bien sûr, s'il vous demande quelque chose qui est non biblique, non. Mais s'il vous demande quelque chose qui est biblique et qui a pour but d'amener de l'ordre à l'Assemblée, les gens devraient obéir. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est là qu'on voit notre nature pécheresse. Cinquième point. Alors, il finit par poser quelques questions qu'on se poserait encore aujourd'hui sur les pasteurs. La première question qu'il pose... Un pasteur peut-il ordinairement officier dans une autre église que la sienne et y administrer les ordonnances? La réponse est non, puisque le repas du Seigneur est un acte pastoral dans le cadre d'une assemblée locale. Aujourd'hui, à cause des ce qu'on appelle les organisations paraecclésiastiques, donc c'est des organisations qui ne sont pas des églises locales et qui organisent des activités, parfois ils s'arrogent des droits qui ne leur appartiennent pas. Si tu fais une organisation paraecclésiastique, organise une activité, ils ne seraient pas censés de faire leur pas du Seigneur là. Parce que c'est un acte de l'Église locale. Mais aujourd'hui, ça se voit de plus en plus. Vous pouvez aller aux États-Unis, là, et même ici au Canada, des organisations paraecclésiastiques qui s'arrogent des droits qui ne sont pas les leurs. Parce que c'est quelque chose qui appartient à l'Église locale. Comme par exemple, on dit, le maire d'une ville ne peut pas agir comme maire d'une autre communauté que la sienne. Le maire de Rouen s'en ira pas à Val-d'Or pour dire comment régler la ville de Val-d'Or. Alors nous, c'est pareil, quand un pasteur est pasteur de l'église réformée baptiste de Rouen-Noranda, on n'a pas d'affaire à aller se mêler de ce qui se passe dans les églises locales des autres. À moins qu'on nous demande notre avis. Alors, le pasteur doit être membre de son église locale. Ceci exclut l'évêque diocésain, comme on voit dans l'Église catholique, où il y a la pluralité de ce qu'on appelle les paroisses, et même l'évêque provincial, l'évêque national, ou même l'évêque universel. Alors, eux, ils ont ajouté l'évêque, l'archevêque, le cardinal et le pape. Ils ont ajouté cinq fonctions que les Écritures n'en parlent pas du tout. Alors, acte 20, verset 28, on parle du troupeau. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 1 Pierre, chapitre 4, verset 15, « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Deuxième question qui se pose, la responsabilité de déléguer le pouvoir d'administrer les ordonnances est-elle biblique? John Gill affirme que cette responsabilité ne doit pas se déléguer puisqu'elle est un pouvoir exclusif aux anciens. Alors, le repas du Seigneur, le baptême, normalement, ça devrait être les pasteurs des églises locales qui font ces choses-là. Et lui, il a la conviction que ça ne devrait pas se déléguer à quelqu'un d'autre. Troisième question qui se pose, un pasteur peut-il changer d'église? La réponse est non. S'il s'agit de changer d'église pour des avantages pécuniaires ou pour s'évader de difficultés pastorales. Cependant, il y a des cas où cela doit être considéré lorsqu'il s'agit du bien de l'Église en général. Ces changements doivent toujours être précédés de demandes de conseil auprès de d'autres ministres et églises avec beaucoup de prières. Donc, la réponse est oui puis c'est non. La réponse est non si c'est pour s'évader des difficultés ou pour avoir plus d'argent. La réponse est oui lorsque l'Église locale se complaît dans des immoralités ou des erreurs doctrinales irréparables, des divisions inguérissables ou une provision insuffisante pour les besoins essentiels du pasteur. Donc, si une Église persiste dans des erreurs où le pasteur peut quitter et donc l'Église n'est pas capable de pourvoir aux besoins. Parce que si on regarde l'histoire de l'Église, des fois, il y a des pasteurs qui avaient des grosses familles, 8-10 enfants, et que l'Église locale ne donnant pas ce qu'ils sont censés donner, la dîme, pour et c'était pas suffisant, la personne n'est vraiment pas capable de... Alors là, oui, il pourrait changer d'Église. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène dans l'Église moderne. Quand vous regardez l'ensemble de l'histoire de l'Église, anciennement, quand quelqu'un prenait une charge d'une église, c'était à vie. Il prenait la charge d'une église. John Gill était 50 ans dans la même église. Ça, c'était la norme à l'époque. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, on est rendu qu'on considère un peu le poste de pasteur un peu comme une job, entre guillemets. Où on peut, si une autre église nous approche, nous offre 25 000 de plus, c'est pas... John Gill, il est convaincu que c'est pas ça. Si le Seigneur a voulu d'établir pasteur dans une église locale à quelque part, c'est là qu'il veut. Et on ne se doit pas de considérer le poste de pasteur comme une job ordinaire où on peut changer pour avoir des meilleures conditions. Quatrième question qu'il pose, un pasteur peut-il démissionner pour déficience ou faiblesse physique ou perte de capacité mentale? La réponse est oui, mais après prière, consultation et le consentement de l'Église locale. Bien sûr que, par exemple, disons qu'un pasteur serait rendu à 75 ans, puis il se mettrait à avoir de l'Alzheimer, puis là, son esprit ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, bien, lui, pour le bien, pour son propre bien, pour le bien de l'Église, il demande à l'Église, mais normalement, l'Église ne dira pas non dans ces cas-là, parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils auraient intérêt à changer de pasteur. Dernier point, le pasteur peut-il être congédié? La réponse est oui, si c'est pour cause d'immoralité ou d'hérésie. Alors, si un pasteur tombe dans l'immoralité, l'Église locale se doit de lui faire la discipline, la même chose que n'importe quel autre membre. Et, ou hérésie, une hérésie, c'est que là, c'est une erreur doctrinale grave. Quelqu'un, par exemple, qui dirait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, puis qui se mettrait à prêcher ça publiquement, c'est sûr que l'Église locale se doit de le congédier. Mais c'est bien sûr, après l'avoir réprimandé, vérifié, ou s'il n'y a pas moyen qu'il se rétracte, comme on pourrait dire. 1 Timothée, chapitre 5, verset 19, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Moi, j'ai vu, je me souviens d'un cas, j'étais à Sherbrooke, il y a un pasteur qui avait été accusé d'avoir pris de l'argent de l'Assemblée. Disons que quelqu'un arrive puis vous dit ça, le pasteur a volé. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que la parole nous dit? Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors, si la personne n'a pas de témoins, ça peut être tout simplement parce que le gars il a un compte à régler avec le pasteur, puis il cherche à détruire sa réputation, puis il cherche à le faire congédier alors qu'il n'y a aucune preuve. La Bible est prudente, le Seigneur est prudent. Il sait que ces choses-là peuvent arriver. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne reçois pas d'accusation de la part d'un ancien, à moins qu'il y ait des preuves et des témoins. S'il n'y a pas de témoins, ne le reçoit même pas. Même si ça serait vrai, s'il n'y a pas de témoins, ne parle pas de ça. C'est ça que la Bible dit. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de la brève étude d'aujourd'hui? Rappelons-nous que la charge d'ancien et de pasteur est une dignité élevée et une très grande responsabilité. Prions quotidiennement pour eux, pour du courage, de la fidélité, du labeur consciencieux et spécialement pour leur sanctification, leur consécration et pour l'onction du Saint-Esprit. Je me permets de vous dire ce matin, est-ce que vous avez prié tous les jours pour... On se doit de le faire. Parce que si on le fait, d'abord, c'est nous qui va récolter les fruits de ça. Parce que quand on prie pour la sanctification, Dieu répond aux prières. C'est ça qu'il faut se garder à l'esprit. Plus on va prier pour les pasteurs, plus les membres des églises vont en recevoir des bénéfices. très important à réaliser. C'est un devoir qu'on a et on se doit de le faire. Puis le faire quotidiennement, c'est encore mieux. Deuxième application, les anciens doivent être choisis avec un très grand soin, selon les critères bibliques, le respect des prérequis et la procédure d'ordination. Troisième application, faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir l'œuvre des anciens, par l'obéissance à leurs conseils et directives et par une prière quotidienne pour eux. N'oublions pas qu'ils sont là pour le bien-être de nos âmes et pour nous conduire vers notre destinée éternelle. Leur travail est essentiel. Évangéliser, nourrir les âmes, surveiller notre état, administrer les ordonnances, prier et gouverner. Puis quand une église locale n'a plus de pasteur, c'est là qu'ils se rendent compte le rôle, puis la fonction, puis l'utilité. Parce que toute église locale qui perd, qui n'ont plus de pasteur pour un certain... C'est arrivé souvent aux États-Unis, le pasteur décède. Voyez-vous, justement, l'exemple de la Porte de l'Espérance à Québec. Pasteur décède, troupeau, il était quoi, une quarantaine, une cinquantaine de personnes, il sera mort, plus de pasteur. Là, ils se rendent compte. Parce que quand on l'a, c'est une impression, on est rendu qu'on prend ça pour acquis, comme n'importe quoi dans la vie, notre santé, on prend ça pour acquis. Et quand ça arrive qu'on le perd, là, on se rend compte de ce que le Seigneur nous avait donné. Alors, aimons-les. C'est facile à dire, vous direz, aimez-nous. aimons-les, assistons-les, obéissons-les, honorons-les, prions pour eux et pour leur famille, par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Amen.
Amen.